Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est le jardin, deuxième partie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et merci d'être là, on le répétera jamais assez. Sachez que jusqu'à 8h, Patrick Mulan m'accompagne. Ensuite, ce sera la maison avec Christian Pessé, notre spécialiste, vous le savez, bricolage maison déco. Et on vous prépare une spéciale bruit et isolation acoustique. C'est vrai que le bruit est la première source de nuisance hein, pour les Français, vous le savez. Avec parfois des conséquences ennuyeuses, voire dramatiques. Bruit de la rue, de la route, le bruit des voisins, les bruits liés aux activités industrielles, etc. et commerciales. On en parlera tout à l'heure. Peut-on combattre le bruit et comment, surtout? Ce sera donc entre 8 et 10 sur RMC avec vos questions, vos témoignages au 3216 ou sur maison@rmc.fr. Mais pour l'heure, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan toujours à mes côtés. Le jardin, que ferait le jardin? Que serions-nous sans le sol, Patrick?
Ah bah déjà, je sais pas sur quoi on marcherait.
Hein. Voilà, ça serait un peu compliqué. Embêtant.
Donc effectivement, il y a des sols qui sont laissés... Alors il y a des sols qui sont laissés nus, on verra que c'est pas très très bien. Il y a des sols qui sont envahis ou du moins habités par la végétation sauvage, ouais, naturelle. Il y a des sols qui sont cultivés, puis il y a des sols qui sont artificialisés par l'homme, hein, ne serait-ce que les routes, les trottoirs, etc. qu'on a dans la ville. Mais ça, le sol, lui, il est partout. Alors ce sol, c'est un support pour les plantes, hein, elles s'y ancrent, mais elles s'en nourrissent. Mmh. Et surtout, le sol, c'est un univers dans lequel il y a une foultitude, si je puis dire, d'éléments vivants. Alors, quand je dis des éléments, c'est parce qu'il y a des choses qui sont invisibles. Il y a énormément de bactéries, il y a des champignons microscopiques, il y a des plus gros champignons, il y a des insectes, il y a des collemboles, il y a des acariens, il y a aussi parfois des mammifères. On connaît les taupes, hein, par exemple. Bon, il y a plein de choses qui vivent là-dedans. Et les chiffres sont ahurissant, puisqu'on aurait 80% des êtres vivants connus qui seraient des habitants du sol. Alors, on va parler de tout ça parce qu'on va voir les enjeux qu'il y a là-dedans, et on va voir aussi que pour les résultats dont on a envie d'avoir dans nos jardins, on a besoin, effectivement, que ce sol soit vivant, parce que la vie va créer aussi l'équilibre. Et ça, on en parlera certainement pas mal de ce côté, j'aime bien moi l'équilibre, parce que c'est dès qu'il y a un déséquilibre qu'il commence à avoir des problèmes avec la culture. Alors pour ça, on va avoir des invités tout à fait experts. D'abord, Elisabeth Véran, qui est agricultrice et secrétaire générale de l'Observatoire des sols vivants. Elle est avec nous en studio. Bonjour Elisabeth,
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Et nous avons pour l'instant aussi avec nous au téléphone Gilles Domenech. Gilles Domenech, c'est un formateur spécialiste vraiment des sciences du sol et qui a écrit... un livre chez Larousse qui s'appelle « Jardiner sur sol vivant », donc on peut pas être plus dans le sujet. Gilles, bonjour, bienvenue avec nous.
Bonjour Patrick. Bonjour.
Donc je vais vous donner à l'un et l'autre tout de suite la parole. J'ai fait une petite introduction. Déjà, Elisabeth, c'est important que le sol soit vivant?
Ah ben, c'est essentiel. Le sol ne peut accueillir la vie dessus, c'est-à-dire avec nous dedans, dans ce qui est dessus, que s'il est vivant dessous. Donc c'est un élément déterminant, c'est une des caractéristiques essentielles de ce qu'on peut appeler le monde dans lequel on vit et le cycle de la vie, c'est le fonctionnement du sol.
Alors je pense que Gilles va être d'accord avec ça, je voulais avoir un côté un tout petit peu provocateur, c'est que le sol vivant, c'est sûr que tout le monde sait que c'est important, mais en revanche on est capable de cultiver des plantes hors sol, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'il soit vivant?
Absolument, c'est vrai que la question est très bonne. Après, il faut voir simplement le coût énergétique de l'histoire. Parce que dans un sol vivant, c'est les plantes via l'énergie solaire qui nous amène toute l'énergie gratuitement. Dans un système hors sol, toute l'énergie, elle vient de la pétrochimie notamment.
Voilà.
Donc il y a une grande question énergétique qui est à la clé.
Alors il y a une chose, bon, c'est vrai quand même que les chiffres sont absolument invraisemblables. Alors est-ce qu'ils sont exacts, j'en sais rien, mais j'ai lu par exemple que sous une semelle de chaussure, quand vous écrabouillez avec votre chaussure de pointure 44 une petite partie de sol, vous avez quand même entre 2 et 5 millions d'animaux unicellulaires, une dizaine de larves d'insectes, entre 2000 et 5000 collemboles, des acariens, une demi-douzaine de vers de terre, ah oui, des araignées,
du monde, hein,
des cloportes, des mille-pattes, enfin voilà. Donc est-ce que ça fourmille autant que ça, Gilles ?
Oui, c'est absolument impressionnant. Et même, on peut encore donner un autre chiffre. C'est que il me semble que 60, je ne suis pas sûr du chiffre à 100%, mais environ 60% de la biomasse animale des continents, c'est des vers de terre.
Alors, oui, gros, rien que gros, là on ne parle gros, que de vers de terre.
Vers de terre. Mmh. Voilà, et puis, bien sûr, en nombre d'individus, ils ne sont pas si importants que ça par rapport aux bactéries ou aux champignons, mais ça fourmille, c'est absolument impressionnant. D'ailleurs, on peut l'observer. Il suffit de prendre une poignée de terre en forêt, vous regardez attentivement. Alors, c'est vrai qu'il faut des fois prendre le temps de s'accoutumer à ce monde extrêmement petit, mais on peut commencer à voir plein de choses. Les collemboles, au bout de quelques secondes, on peut commencer à les voir. Les acariens aussi, dans certains cas. Hein, et on voit qu'il y a effectivement énormément de choses.
Mais est-ce que, Elisabeth, ça n'a pas un côté un peu, négatif, toute cette vie grouillante, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie plutôt d'avoir un sol un peu plus aseptisé, alors qu'on vit au XXIe siècle, la plupart du temps, dans des zones urbaines où on ne connaît pas un peu tout ça?
C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre dans des endroits aseptisés, mais ce sont des endroits aseptisés. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que pour que les plantes dont vous parlez soient aussi belles que ce que vous rêvez de voir dans un jardin, c'est quand même essentiel, eh bien il faut que toute cette vie mette en œuvre des processus qui rendent accessibles à toutes ces plantes les nutriments dont elles ont besoin pour être belles.
Voilà, là on rentre effectivement dans le cœur du sujet, parce que le fait de rendre vivant le sol, c'est pas simplement pour avoir envie qu'il soit vivant, c'est qu'en fait c'est le rôle de tous ces êtres vivants qui participent à une chaîne très importante. Parce que ce que je voudrais quand même que nos auditeurs comprennent, parce que ça souvent on a ce type de questions et je pense qu'aujourd'hui on a tendance aussi à mélanger un peu tout, c'est que d'un côté la partie vivante, donc on va appeler la partie organique, elle est pas immédiatement disponible pour les plantes. Les plantes, ça fonctionne comme une sorte un peu d'usine chimique qui a besoin justement du travail de tous ces êtres vivants pour transformer ce qui est la matière organique qui se décompose, hein, les cadavres, etc., les feuilles mortes et tout ça, en éléments minéraux que les racines vont puiser. Parce que les racines, ça fonctionne pas avec de l'organique, n'est-ce pas, Gilles ?
Oui, alors c'est vrai que les racines ne vont pas prélever directement de l'organique. Alors après, bon, si on rentre un peu dans les détails, on se rend compte qu'il y a certains cas, notamment les arbres forestiers qui vivent en symbiose avec des champignons, oui, qui eux sont capables d'aller directement chercher les nutriments dans la matière organique.
Alors ça c'est vrai, vous avez raison de le dire, parce qu'aujourd'hui de plus en plus on voit arriver dans le marché du jardin des terreaux avec ces fameuses mycorhizes comme on appelle, et effectivement vous faites allusion à ça et c'est très important.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, les plantes, notamment les plantes du potager, effectivement, elles vont plutôt aller chercher les nutriments sous forme minérale, effectivement.
Mais donc, si il n'y a pas une intervention d'organismes vivants pour transformer tout cela, on est obligé d'utiliser à ce moment-là des engrais d'origine chimique qui, là, effectivement, rentrent dans un autre cycle totalement artificiel.
Absolument, absolument. C'est vrai que les engrais chimiques, justement, court-circuitent la vie du sol. C'est pour ça que c'est facile à utiliser. Alors qu'effectivement, dans la nature, on a besoin des bactéries, des champignons qui vont, ce qu'on appelle minéraliser, c'est-à-dire détruire en fait la matière organique pour libérer les nutriments qu'elle contient.
Elisabeth, Gilles et Patrick, on revient dans un instant. Il est 7h18 et nous aurons Jean-Claude. Jean-Claude qui n'est pas content parce que pour lui, il a la pire terre de potager.
Comme tous les jardiniers.
Ben voilà. Donc c'est vrai qu'on est en général, on est toujours mécontent.
Exactement.
Un jardinier content, il y a un problème en général. Hein, c'est qu'il y a un petit souci.
Surtout avec sa terre.
On en parle dans un instant. Le 32-16, hein, si vous voulez poser vos questions, réagir sur ce sujet, témoigner. 32-16 ou jardin@rmc.fr. Et n'oubliez pas votre numéro de téléphone si vous nous appelez. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Mon cher Patrick, ce matin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous sommes quand même très terre à terre.
Nous sommes très terre à terre, mais c'est normal, les jardiniers sont.
On parle de sol.
Du sol.
Voilà. Celle-là, elle est faite. J'ai cherché le bon moment. Écoutez, ça, c'est réglé.
Vous avez encore quelques minutes pour nous en trouver une autre.
On
n'en
parle
pas de problème.
Plus. Je ne sais pas si je vais y arriver. j'ai pas le terreau très fertile en ce moment. Donc, on enchaîne avec Jean-Claude qui nous attend et qui est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jean-Claude. Bonjour François, bonjour Miu Miu et bonjour à vos invités.
Bienvenue Jean-Claude et on vous écoute attentivement. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors, je n'ai peut-être plus la pire terre de potager, mais je n'ai pas encore la meilleure.
Ça viendra, c'est une question de temps. Ouais.
Oui, ça il en faut, il faut du courage aussi. J'ai fait construire en Haute-Savoie et j'ai de la terre de remblai. Il n'y avait quasiment pas de terre végétale. La terre a été brassée et en dessous, c'est de la molasse. Donc, c'est très gras, acide et plein de pierres. Mmh. Alors, c'est couvert de trèfle blanc et de prêles et obligatoirement à nettoyer à la main. Alors, j'ai apporté du fumier, du sable de rivière et ensuite de la chaux, pas tout en même temps, mais au fur et à mesure. Donc, ça s'arrange un peu. Maintenant, je couvre la terre l'hiver avec des feuilles mortes et un peu de fougère. Et que faire d'autre ?
C'est-à-dire que je pense que déjà, les fougères, vous allez un peu acidifier. Moi, je trouve que c'est pas mal, déjà, comme type d'amendement, Elisabeth.
Moi, je trouve que c'est très bien. Je rajouterai éventuellement des petits branchages du bois broyé. Parce que
du BRF.
Ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière.
Vous savez ce que c'est, Jean-Claude,
organique.
Le BRF
le Oui, bois, j'en fais.
Le bois BRF fragmenté.
J'ai acheté une machine à broyer et tout ce que je récupère, les asters géants, les arbres à papillons, enfin tout ce que je coupe, je passe à la broyeuse et je m'en sers pour pailler et ensuite retourner.
Alors Gilles, vous êtes vraiment un adepte de ce genre de technique. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à notre ami Jean-Claude ?
Alors, effectivement, c'est vrai que je suis assez adepte de ce genre de pratique. Il y a quelques trucs qui me surprennent, là, notamment quand vous dites, Jean-Claude, que vous avez une molasse et qu'elle est acide, ça me surprend un petit peu parce que les molasses sont en général des roches calcaires. Donc, qui donne plutôt des sols basiques, justement. Donc, je vois pas trop, a priori, l'intérêt de chauler. Alors, je sais pas, si vous avez une mesure de pH, peut-être que vous allez me contredire. Je suis un peu surpris de l'acidité, là, quand même.
C'est couvert de prêles. Alors, la molasse, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est de la terre de montagne. Je suis à 750 mètres d'altitude. Et c'est vraiment de la terre.
Oui, en général, les prêles, ça pousse quand même dans des sols plutôt très acides.
Pas forcément. Vous pouvez avoir de la prêle en sol calcaire. Ça indique plutôt un engorgement ou des problèmes de structure de sol et un engorgement. Donc, c'est plutôt ça, la prêle. C'est pas tellement l'acidité qu'elle indique, la prêle. Hein. Donc, souvent, j'ai entendu cette remarque-là. Hein, mais j'ai déjà vu de la prêle sur le terrain calcaire. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai des gros doutes sur l'histoire de l'acidité, là. Mais bon.
Le problème de l'acidité, quand même, c'est que quand on travaille trop en organique, on augmente systématiquement l'acidité.
Pas forcément. Ça dépend des conditions dans lesquelles la matière organique se décompose. On parle beaucoup de l'acidification des terres, mais une terre, pour qu'elle s'acidifie, ça veut dire que dans des matières organiques se décomposent dans de mauvaises conditions.
Elisabeth
voulait intervenir là-dessus.
Oui. Bonjour Gilles, d'abord.
Oui, bonjour Elisabeth.
ce que je veux dire, c'est que une terre dans laquelle il pousse de la prêle, c'est aussi une terre qui est assez tassée et qui a un mauvais écoulement des eaux, parce que la prêle, c'est une plante de zones humides. Maintenant, c'est aussi un mal pour un bien, puisque la prêle, c'est une plante qui est extrêmement intéressante en jardinage, puisqu'on s'en sert aussi beaucoup pour faire des sortes de tisanes de plantes pour
accompagner la prêle dans le jardin. Je peux vous dire que c'est quand même une galère.
Ah, je vous dis pas le contraire.
Parce que alors, c'est envahissant comme c'est pas permis. Ça
dépend
fait
si vous voulez un jardin à la française, c'est-à-dire nickel, avec juste que les plantes que vous avez choisi d'avoir.
Non, mais c'est ça un jardin. Un jardin, c'est quand même une. Ah non, mais attendez, alors là, on va être extrêmement clair. Un jardin, ce n'est pas un espace naturel. Un jardin, c'est un endroit dans lequel vous avez décidé de mettre certaines choses pour des raisons, que ce soit le potager, que ce soit pour votre plaisir de décoration, etc. Alors après, les prêles, ça a un gros défaut, c'est que c'est très joli, c'est esthétique. Voilà. Alors vous avez tendance à vouloir les garder. Mais au bout d'un moment, vous n'avez plus que des prêles à la place de quand même les plantes que vous avez mis en place au départ. Donc je pense quand même que, enfin moi, la vision qu'ont certains jardiniers, ou du moins écologiste jardinier aujourd'hui qui est de laisser quand même un petit peu la nature reprendre le dessus sur le jardin, je partage pas. Hein. J'avoue que il y a des moments où il y a des trucs qui sont sympas. On avait fait une émission là-dessus sur les spontanés, etc. Et il y a de temps en temps des belles surprises. Bon, moi je vois par exemple l'herbe à Robert. J'avais oh qu'est-ce que c'est mignon ce truc-là. Sauf que maintenant j'ai plus que ça dans le jardin. Bon, voilà. Donc il y a quand même des choses où il faut savoir quand même que le jardinier introduisant, mais que ce soit d'ailleurs des légumes, hein, ça je voudrais bien aussi que nos auditeurs comprennent, le légume sauvage, le bon légume de France, etc., ça n'existe pas. Aujourd'hui, oui. On n'a que des plantes qui ont été hyper améliorées depuis des siècles et qui ont la plupart été introduites. Hein. Donc, faut aussi être raisonnable et donc forcément, à un moment donné, on est obligé d'intervenir. Alors, je vais donner la parole à Gilles parce que je pense qu'il doit bouillir derrière son téléphone à entendre ce que je raconte. Mais
Gilles,
voilà. Gilles.
Oui, déjà, par rapport à la prélangue, c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'il faut trouver un juste milieu, je dirais, entre, effectivement, se laisser dominer par les herbes qui poussent, et je dirais, effectivement, comme disait Elisabeth, le jardin à la française. À mon avis, il y a un juste milieu à trouver. Parce que dans le cas de la prêle, elle nous indique quelque chose, d'important, effectivement, donc l'histoire de la compaction, l'histoire d'un problème d'écoulement de l'eau, hein, comme disait Elisabeth, ce qui est tout à fait juste. Et, justement, c'est aussi la plante qui est le remède à ça. Là, dans le cas de Jean-Claude, ce qui s'est passé, c'est vraisemblablement c'est le brassage de la terre qui a ramené de la terre complètement déstructurée en surface, enfin qui a déstructuré la terre plutôt et qui a ramené une terre très minérale en surface. Donc, en effet, la prêle, du coup, trouve un terrain idéal pour elle et elle est aussi le remède à ça.
Comment on va faire en pratique?
Ça veut dire que ce que ça nous dit dans tout ça, c'est que notre terre, là, elle a besoin de plantes vivantes aussi pour s'améliorer. Donc là, elle fait pousser la prêle naturellement. Le problème, c'est que la prêle, effectivement, elle nous arrange pas trop parce qu'elle est très envahissante, c'est une plante à rhizome. Les plantes à rhizome, en général, on n'aime pas ça au jardin parce que c'est un peu compliqué à gérer. Voilà. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a vu dans mon livre, là, j'ai parlé de Bernard Bertrand, par exemple, qui lui se les gère en allant les hacher régulièrement dans son jardin. Donc effectivement, c'est pas du tout un jardin à la française qu'il a, mais c'est un jardin où il utilise ces plantes-là. Donc ces plantes-là jouent leur rôle et en même temps, il les contrôle suffisamment pour que ses légumes aient quand même le dessus. Donc ça, c'est une façon de trouver le juste milieu. C'est une façon parmi d'autres.
Oui, parmi
une autre manière de faire, ça pourrait essayer de trouver des plantes qui vont concurrencer la prêle et qui vont permettre que d'autres plantes plus faciles à gérer jouent le rôle de la prêle.
Par exemple,
dans ce cas-là, ça peut être tenter le coup avec des plantes qui ont des grosses racines pivotantes qui vont être capables de casser un peu la compaction.
De la consoude pour rester dans ceux qui aiment bien les purins.
Oui, mais la consoude c'est une vivace, donc elle va être très compliquée à gérer. Donc ça, je ne conseillerais pas la consoude du tout dans ce cas-là.
Bon, c'est pas très ça a l'avantage sur la prêle, c'est que c'est beaucoup moins envahissant. Ça vous fait des grosses racines pivotantes. Et après, bon, on arrive à les gérer assez facilement. On va
faire une petite pause. On revient dans un instant, il est bientôt 7h30, on parle du sol ce matin. Faire vivre son sol, qu'est-ce que c'est que ce sol vivant? Pourquoi faut-il que le sol vive? Et comment aussi développer la vie du sol et l'entretenir? Toutes vos questions, vos témoignages sur ce sujet, n'hésitez pas dès maintenant, le 3216 ou jardin@rmc.fr, la météo, les infos, et on est de retour, à tout de suite.
Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC.
Attention, monsieur Miu Miu, chaussez votre casque. Il est temps de retrouver une question flash et c'est la question de Anne-Gaëlle qui habite Poitiers. J'ai une terre extrêmement collante, nous dit Anne-Gaëlle, quasi impossible à travailler dès qu'il pleut. Que faire pour l'améliorer, cette terre?
Il va falloir. Alors, si on est vraiment dans une configuration quasi marécageuse, il faut faire du drainage. Ça, c'est vraiment là très très lourd et très embêtant si vraiment la terre est complètement noyée, on va dire, ça c'est vraiment un problème. En revanche, une terre argileuse, ça a des avantages. Une terre argileuse, c'est généralement très riche parce que ça garde bien tous les éléments, donc il y a beaucoup de plantes qui peuvent pousser très très bien là-dedans. Évidemment, pour le jardinier, c'est un peu moins sympa parce que ça demande, on appelle ça des terres lourdes, ou terres, on dit même des terres amoureuses dans notre langage parce que ça colle, ça reste dessus. Alors ce que l'on va faire, c'est essentiellement effectivement donc des apports de matière organique, parce que la matière organique, elle va, c'est un peu tout le propos qu'on a ce matin, c'est elle va permettre donc d'améliorer tout ça, de retravailler, d'avoir d'ailleurs un rôle à la fois d'aération et de conservation de tous les éléments qui sont importants pour la plante. Souvent, malheureusement, les sols argileux, très argileux, sont basiques sont assez calcaires. Donc, je dis l'inverse. Sont acides, donc on va mettre du calcaire. On va mettre de la chaux pour décoaguler l'argile. Alors ça, faut pas le faire trop souvent. On le fait une fois tous les 2-3 ans maximum. Et puis, donc, on peut aussi apporter du sable grossier. C'est pas toujours bien facile, mais je dis bien du sable grossier, du sable de rivière. Hein. Le sable à lapin, y a rien de pire pour vraiment améliorer une terre. Souvent, les sols argileux manquent aussi de phosphore. Donc, on va pouvoir faire aussi des apports de phosphate naturel, par exemple, pour pouvoir rééquilibrer et surtout permettre à la plante de pouvoir se nourrir. Et puis surtout, ben, on va travailler le sol, on va faire en sorte de l'aérer, aller en profondeur. Et ceux qui n'aiment pas être à la bruit,
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Allez, nous voilà de retour, 8h-25, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Et en compagnie de nos invités et de Patrick Mulan, bien sûr, on s'intéresse au sol. Avec vos questions, vos témoignages aussi, dans un instant, nous aurons Pascal. D'ailleurs, on peut peut-être prendre tout de suite Pascal au téléphone. Patrick, elle nous
pas
a appelé
problème,
au 3216.
Pascal. On aura un troisième invité qui va nous rejoindre.
Laurent Largan, qui est déjà avec nous d'ailleurs. On va le retrouver dans une minute. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Pascal, bienvenue.
Bienvenue.
Alors, que se passe-t-il?
Eh bien, moi, je fais mes plants de tomates, j'en prends très soin, et tous les ans, ça démarre bien, je les plante, ils poussent bien, et d'un seul coup, ils s'arrêtent, ils végètent, on sent que les feuilles sont pas hydratées, elles sont un peu sèches. Et cette année, j'ai testé en mettant un plant de tomates dans un sac de terreau à géranium, alors là, celui-là, il a été magnifique, il m'a fait des fruits. Donc je voudrais savoir ce qu'il y a dans ma terre de jardin pour que les racines se développent pas, parce qu'en fait quand j'arrache le pied n'est pas développé.
A priori, ça veut dire que votre terre, elle manque beaucoup, beaucoup de matière organique.
Pourtant, j'en mets de l'or brun, tous les ans j'amende.
Non mais c'est-à-dire que si vous faites la comparaison entre le fait d'avoir cultivé une plante tomate dans du terreau, qui est vraiment un milieu très humifère, très organique, et puis votre terre où il n'y a pas de résultat, on peut en déduire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Enfin,
moi, mes courgettes, elles se développent très bien, les salades se développent très bien, c'est les tomates.
Et vous êtes dans quelle région?
Dans la Sarthe.
On peut être sur une terre assez tassée?
C'est une terre argileuse, mais qui se travaille correctement à force. Parce que
à quelle profondeur?
Ça fait quand même 16 ans qu'on travaille le terrain. Donc,
qui n'est pas compacté?
Non, ça va.
Gilles?
Ce qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est pas un problème d'azote? Parce que est-ce que les feuilles jaunissent?
Elles restent vertes, mais on sent que l'eau ne monte pas parce qu'il y a pas de quoi. Pourtant, je mets une bouteille d'eau pour pas arroser les feuilles, que l'eau aille directement aux racines. Enfin bon, je fais tout, je m'applique et puis ça fonctionne pas.
Mais il y a une chose à faire aussi, ce qui est possible, c'est quand même au moment de la plantation, faites un relativement gros trou, on va dire avec l'équivalent d'une pelletée de bêche, et mettez directement du terreau là-dedans et votre plante tomate. Bon, il y a aussi c'est des plants que vous produisez vous-même.
Oui.
Bon, bah,
mais deux sachets de graines que j'achète chez le commerçant.
Non, parce qu'en fait, parfois, quand on achète des plants, il peut y avoir un stress du fait que les plants sont cultivés dans des conditions particulières, etc. Mais là, bon, puisque vous avez eu des bons résultats avec le terreau, moi, je ferais ça. Je ferais un trou assez volumineux et je mettrais mon plant dans le terreau. Il aura le temps de développer ses racines et effectivement d'aller après dans la terre. Elisabeth.
Oui, j'ai une question. Quand vous passez vos plants, quand vous passez du stade où vous mettez les petits, vous avez les petits plants dans des petits pots, puis vous les mettez en pleine terre à un moment donné.
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire que je prends des gobelets qui se...
Ah oui, des godets qui se dégradent eux-mêmes.
Biodégradables. Je ne martyrise pas les racines.
Oui, mais justement, ma question venait là, c'est que si vous avez donc des petites plantules qui sont dans des godets, donc quand la tomate va se développer, il est possible que la racine fasse un peu un petit tourbillon,
un chignon
dans le godet.
D'accord.
Or, l'important pour la tomate, c'est que précisément, sa racine s'allonge dans le sol.
Oui.
Il est possible que si vous les sortiez des petits godets et que vous allongiez la racine dans le sol, y compris que vous allongiez une partie de la tige jusqu'en dessous de la troisième feuille.
Je courbe pour qu'il y ait une partie de la tige qui soit dans la terre pour que les racines redémarrent.
Voilà. Mais en la laissant dans le godet?
Oui, malgré tout.
Ah, peut-être que c'est... Et quand vous avez mis la plantule dans le terreau, vous l'avez laissée dans le godet?
J'ai fait pareil, et alors elle, mais c'était du terreau de géranium qui me restait. Là, j'ai dit, allez hop, on risque, on verra bien. Alors là, d'abord, j'ai mangé des fruits quasiment que de ce pied.
Oui, mais ça prouve
que... Ça me surprend beaucoup.
Moi, je serais assez d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth, parce que de toute façon, c'est vraiment un conseil qu'on donne tout le temps. C'est quand même, au moment de la transplantation, d'avoir...
De démêler
les racines lorsqu'elles sont en pot et qu'elles ont fait un chignon. Parce que honnêtement, avec tout ce que vous avez expliqué, on peut pas dire que vous faites... Vraiment, moi je vois pas d'erreur particulière. Si votre terre elle est travaillée, si elle est amendée, etc. Alors après il y a autre chose aussi, hein, c'est pas planter les tomates trop tôt en saison, ou du moins les mettre sous une cloche à tomates aussi pour qu'elles soient dans des conditions, on va dire climatiques plus favorables, parce que c'est quand même des plantes qui sont originaires d'Amérique du Sud et qui sont relativement frileuses. Mais à part ça, je vois pas trop
les détails. Non, parce que j'attends les fins de glace, parce que moi j'ai rien de particulier pour protéger, donc j'attends toujours que les fins de glace passent.
Oui, enfin les fins de glace, vous savez, ça c'est une grande fumée. qui date de quelques siècles au passage.
Non, mais je veux dire, j'attends longtemps, je démarre pas de bonne heure.
Non, bah écoutez, je pense que essayez de faire ça. Déjà, ne les laissez pas dans le pot d'origine. Dégagez bien les racines. Mettez un gros paquet de terreau au moment de la plantation. On en reparlera.
Et moi, j'en profiterai aussi pour pailler beaucoup au pied, parce que la tomate, elle a besoin de beaucoup d'être richement dotée
d'être dans
au plan
fraîcheur,
de la nourriture.
Voilà. Oui.
Voilà, si tout comme Pascal, vous voulez interroger nos experts et Patrick, bien sûr, sur la qualité de votre terre, de vos sols, n'hésitez pas, 3216 ou bien jardin@rmc.fr, on en parle jusqu'à 8h, profitez-en.
Alors nous avons invité aussi Laurent Largan, qui est le délégué général de la CAS. La CAS, c'est la Chambre syndicale des amendements et supports de culture, donc qui regroupe les fabricants de ces amendements organiques dont on parle pas mal aujourd'hui. Bonjour Laurent, bienvenue avec nous.
Bonjour.
Donc là, on parle beaucoup de matière organique. Là, on était vraiment au cœur du problème. Aujourd'hui, industriellement, est-ce que on peut dire qu'on fabrique des produits qui ont vraiment un rôle très efficace et très valable pour nos cultures?
Oui, je crois que aujourd'hui, nos produits sont, enfin, les produits que fabriquent nos adhérents ont un rôle fondamental. Il faut bien se rappeler que la matière organique du sol, ça a été déjà dit pas mal depuis le début de cette émission, cette matière organique, c'est vraiment le point clé de la fertilité du sol. Donc donc pour la maintenir ou l'augmenter dans le sol, il faut des pratiques de culture qui la préservent. Et ensuite, bien sûr, dans beaucoup de situations, il faut un apport extérieur de cette matière organique, donc via des amendements organiques, donc qui sont des composts, et aussi via des engrais organiques qui apportent en plus un peu plus d'éléments fertilisants. Donc aujourd'hui, la production de ces amendements qui sont à disposition du public est très très encadrée, est encadrée par des normes qui donnent pas mal de garantie, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de cas du compost ménager, du compost familial, en disant presque que c'est la panacée universelle. Moi, je suis assez sceptique par rapport à ça, parce que justement, on n'arrive pas à contrôler réellement la fabrication de ce que l'on fait à la maison, alors que au niveau, des industriels, comme vous le dites, c'est très très encadré, et on peut dire que les produits qui sont mis en marché, a priori, sont quand même particulièrement sains.
Oui, je suis aussi un jardinier amateur très actif, et je dois bien avouer que j'essaie de faire du compost, mais j'y arrive, alors que je devrais théoriquement bien connaître toutes les règles. C'est vraiment pas évident de faire un bon compost pour un amateur, parce que simplement il est souvent plus facile de composter de grosses quantités plutôt que quelques litres, et on a souvent dans un jardin un compost qui est simplement un pourrissoir où il y a une décomposition, je dirais, anaérobie, donc sans air, donc ça finit par se décomposer, mais finalement on perd au cours de ça, on perd l'essentiel des qualités, et finalement on en sort des très très petites quantités. Donc le compostage du jardin, faut bien voir qu'il est beaucoup aussi poussé par les collectivités pour réduire justement la part de déchets qui vont dans le circuit de traitement, et donc diminuer les frais de gestion des déchets.
C'est un transfert de responsabilité, ça s'appelle ça.
Mais voilà. Donc et ça, c'est tout à fait louable, c'est pas absolument pas la question, mais c'est sûr qu'après, quand on regarde de l'autre côté, les quantités produites par une famille sont finalement très très faible. Hein. Et la qualité du produit n'est pas forcément très très bonne non plus.
Je pense que Gilles va pas être d'accord avec ça. Alors Gilles.
Ouais. Bon, moi j'ai un peu notre regard sur le compostage. C'est vrai que au niveau du compost de jardin, effectivement, je ne conseille pas du tout le compost des déchets ménagers. J'ai plutôt tendance à les conseiller de les apporter directement au sol, sous le paillage.
Mais quelle est votre position, vous, par rapport au compost, au terreau que l'on trouve dans le commerce ?
Certains terreaux du commerce, je trouve, peuvent être tout à fait utiles. Je pense en particulier au terreau de semis. Hein. Je trouve que si on fait des semis soi-même, je pense que c'est quand même plus simple et plus sûr d'utiliser les terreaux de semis qui sont vendus. C'est ceux que je trouve le plus intéressant, d'ailleurs.
Mais les amendements organiques que l'on trouve à base de compost de fumier, d'algues, etc.
Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas ceux qui ont mon préférence. Reconnais que j'ai tendance à préférer les...
Ce que vous faites vous-même. Oui, Elisabeth.
Voilà. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que aussi il faut tenir en compte des notions de dimension. C'est sûr que quand on est sur un tout petit potager, on peut pas faire son compost soi-même parce que par exemple, si on vit dans un appartement et qu'on a un petit jardin à côté, on peut pas faire son compost. Il faut être très opportuniste sur des choses comme ça. Si on est dans un endroit où on est à la campagne, on peut faire du compost avec tous les produits de son jardin, avec
parce qu'on a des lapins, des poules, on a du fumier, on a plein de choses à faire. Mais en ville, c'est quand même un peu aberrant.
Donc il faut aussi voir, donc ça, quand on voit au cas par cas, on voit bien que la notion de dimension et de surface joue. Et puis, quand on parle aussi du recyclage des déchets ménagers, là encore, c'est pas un transfert de responsabilité, c'est une co-responsabilité de ne pas encombrer cette planète de nos déchets, d'apprendre à les recycler. Voilà. Donc, c'est aussi une manière de recycler et de recycler proprement, utilement, d'une manière calibrée qui est maîtrisée.
Oui, mais il y a des industriels qui font ça très bien.
Il y a des industriels qui font ça. Bon. Mais en tout état de cause, plus on pourra, à titre d'individu, dans nos potagers, faire au plus près de ce qu'on... recycler nous-mêmes nos produits, c'est très très bien. Si on a des apports complémentaires, pourquoi pas.
Ah oui, bien sûr,
mais
si on y arrive.
L'essentiel, c'est quand même de ne pas laisser de déchets derrière nous.
Il est 8h moins le quart. On va revenir dans un instant avec, entre autres, la question de Christophe qui vient d'acheter une maison. Avec un jardin de 400 mètres carrés, il aimerait savoir comment préparer son terrain, son sol, pour jardiner ensuite. On va retrouver sa question dans un instant. 3216, jardin@rmc.fr. N'hésitez pas, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
7h48, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin et le sol ce matin, avec bien évidemment nos invités et Christophe, Patrick,
voilà,
qui est
Christophe
avec nous.
Qui nous a appelé. Bien.
Bonjour.
Bienvenue Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour Patrick, bonjour Xavier. Alors je vous appelle parce que j'ai acquis une maison en fait avec un jardin de 400 mètres carrés.
Oui.
Et je suis complètement amateur. Hein. Moi j'ai toujours vécu dans un appartement, donc je connais pas grand chose au jardin. Et j'aurais voulu faire une petite zone de potager parce que ma femme adore les produits du jardin.
Oui.
Et je sais pas du tout comment faire. J'ai de l'herbe partout. Donc voilà, j'aurais voulu quelques conseils pour pouvoir préparer cette petite zone de potager. Afin de pouvoir faire pousser tous les légumes que je voulais. Donc voilà, voilà ma question.
C'est ça qu'il va falloir transformer une zone, on va dire, qui a été laissée un peu à la nature, en zone de culture. Donc tout ça, il va falloir travailler un petit peu. Alors je vais donner d'abord la parole à Elisabeth qui va nous donner son avis, et puis après Gilles, qui généralement, lui, a des techniques différentes, nous donnera son avis aussi, Elisabeth. On commence par quoi alors, quand on se retrouve avec un nouveau terrain, on ne sait pas trop d'où ce qu'il y avait avant, etc. Mettre tout ça en culture.
Moi, je me poserais plusieurs questions. D'abord, je voudrais savoir si ce jardin, c'est un jardin qui a été récemment constitué ou c'est un jardin qui a quelques années de vie déjà.
Non, c'est un jardin qui a quelques années. La maison a plus de 200 ans, donc vous voyez, le jardin est là depuis un temps. Quoi.
Alors moi, je prendrais ma bêche et j'irai chercher dans mon jardin un endroit qui correspond d'abord à mes contraintes, c'est-à-dire un endroit où est-ce que je veux que mon potager soit visible ou pas, est-ce que je veux qu'il soit nickel ou pas, est-ce que je veux le traiter comme un jardin à la française ou comme un potager très bien rangé ou comme un potager un peu fouillis dans lequel je mélange des variétés et je travaille sans en faire vraiment quelque chose d'impeccable, parce qu'un potager ça peut être impeccable ou un petit peu fouillis.
Mais avec un conseil de base, il faut quand même que ça soit exposé au soleil. Hein.
Il faut que ça soit exposé
au soleil.
Les
légumes, ça pousse pas à l'ombre. Hein.
Et absolument. Et puis, j'irai chercher un endroit où j'ai un peu de profondeur de terre.
D'accord. Oui, voilà. Parce que quand on fait des carottes, il faut quand même que ça puisse rentrer un peu en profondeur. Oui. Après, moi, je dirais que je serais tenté de faire quand même une analyse de sol. Je vais quand même donner la parole à Gilles pour voir ce qu'il ferait, Gilles, avec ses techniques modernes. Gilles.
Moi, les analyses de sol, je les fais un petit peu comme Elisabeth vient de nous décrire, hein, c'est-à-dire avec une bêche et puis regarder, toucher et observer.
Quand on a vécu toute sa vie à la ville et qu'on ne connaît rien du tout à l'univers de la nature et du jardin, c'est compliqué de se faire une idée tout seul.
C'est compliqué, mais une analyse de sol ne va pas nous donner une meilleure idée.
Oui, je suis d'accord avec Gilles. Et je pense que de faire des petits trous dans le potager, ça permet justement, entre soi et soi, de comparer les différents.
Oui, de voir quels sont les endroits. Voilà. Alors, c'est vrai qu'une terre, on va dire qu'une terre arable, riche, etc., c'est quand même une terre qui généralement a une certaine couleur un peu foncée, lorsque vous la mettez au creux de votre main, elle va s'effriter, elle va pas faire des espèces de grosses mottes bien collantes, bien lourdes, etc., que vous allez sentir la vie aussi de ce sol, effectivement, quand on va avoir à creuser avec la bêche, et bien s'il y a quelques vers de terre qui sortent, etc., ça veut quand même dire qu'il y a un élément vivant, ça n'empêche qu'on aura quand même nécessité de le travailler, hein.
Oui, mais c'est clair.
Surtout par rapport à ce que vous observez, surtout regardez les racines. Regardez où vont les racines. Est-ce que les racines de l'herbe descendent en profondeur ou est-ce qu'elles sont bloquées à un certain niveau? Ça, c'est très important à regarder. Et ça, c'est très facile à voir. Ça.
Oui, et comme disait donc Elisabeth, il vaut mieux chercher les endroits où les racines vont un peu en profondeur.
Absolument.
Oui, Elisabeth.
Oui, je rajouterais une chose, c'est que l'avantage d'aller farfouiller dans la terre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une très grande expérience, on a juste besoin d'utiliser ses cinq sens, enfin, pas tous en l'occurrence, mais ses yeux, son toucher et son nez.
Oui, l'odorat, c'est important.
Vous n'avez même pas besoin qu'on vous apprenne. Quand vous aurez été prendre des mottes à différents endroits, instinctivement, vous comprendrez quelle est la terre la plus appropriée parce que vous lui trouverez un caractère de souplesse, elle aura une odeur qui vous parlera. C'est sûr qu'on est plus conquis par une terre qui sent l'humus que par une terre qui sent la
base. La forêt, voilà, exactement.
Donc, et quand vous la toucherez, vous verrez bien qu'il y a certains endroits où elle est plus accueillante que d'autres. Voilà.
On peut se fier à son instinct, pratiquement.
Tout
là-dessus.
À fait.
Ça joue beaucoup dans le jardin parce qu'il y a quand même une chose de base. Le jardinage n'est pas une science exacte, hein. Ça, faut bien le savoir. On peut faire des choses différentes les uns les autres et avoir des résultats totalement opposés ou similaires. Alors, vous voyez, c'est très particulier. Laurent, est-ce que vous auriez à intervenir par rapport à ça?
Oui, je pense qu'il faut, je rejette pas du tout l'analyse de sol. En fait, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez complémentaire qui coûte quand même pas très cher et qui peut vous donner et qui peut compléter toutes ces choses qu'on peut voir effectivement par ses yeux, par ses sens. L'analyse de sol va quand même vous donner des indications de pH du sol. Alors, on peut aussi compléter par des observations sur les plantes, mais je reste à penser que c'est quand même quelque chose d'intéressant qui coûte pas très cher et qui permet de partir sur de bonnes bases avant de se lancer.
Mais quand l'analyse est complétée en général par des conseils pratiques, parce que c'est vrai que si on a simplement un graphique avec, comme quand on va faire une analyse de sang avec uniquement le dosage, c'est pour un néophyte un peu complexe.
Les analyses que vous pouvez faire dans les jardins, dans les visas aussi, il y a aussi un conseil qui est donné derrière, donc. Qui va vraiment s'appuyer là-dessus. Ensuite, j'aurais tendance à dire à votre auditeur que il a la chance peut-être aujourd'hui de partir avec un sol qui est manifestement riche, probablement en matière organique, riche en vie et tout. Et donc il faut qu'il le travaille de manière douce pour préserver sa fertilité justement. Et ça peut être une chance de partir sur un sol comme ça.
Merci beaucoup Laurent et merci à Gilles aussi. d'avoir été avec nous ce matin. Ah oui. Juste, il y a un petit mail de Fernand qui nous dit simplement une astuce pour avoir de belles tomates. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Alors, il nous dit ceci, vous allez me confirmer si ça peut marcher ou pas, Patrick. Faire un trou profond, mettre une bonne poignée d'ortie dans le fond, avec du terreau, et planter le pied de tomate le plus profond possible.
Alors moi, je suis pas un fanat des apports
Elisabeth,
de matière...
Elisabeth a opiné du chef,
oui,
je l'ai vu.
Je lui donnerai la parole juste après. Moi, j'aime pas beaucoup mettre de la matière organique qui n'est pas décomposée. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous rentrez dans le processus de décomposition, il y a pas que des bons dans la nature, il y a des éléments bons et mauvais. D'accord. Et donc ça, il y a un risque, Elisabeth.
Alors moi, je n'enterrerai pas profond, mais j'utiliserai de l'ortie.
L'ortie,
en effet.
D'accord.
Mais compostée.
Non.
Moi,
le principe de dans la nature, il y a des feuilles pas compostées qui tombent au sol et qui se décomposent par un processus qui n'est pas le même que le processus.
Ils sont pas au contact des racines.
Messieurs dames, on pourra en parler pendant des heures, mais malgré tout, l'heure tourne. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir été avec nous. Elisabeth Véran,
avec
donc
plaisir.
Agricultrice et secrétaire générale de l'Observatoire des sols vivants.
Et Patrick, je rappelle le livre de Gilles, c'est Jardiner sur un sol vivant, c'est la rousse.
On se retrouve la semaine prochaine, Patrick.
Bien sûr.
Et dans un instant, c'est Christian Pessé pour La Maison.
Eh oui, bonjour.
Salut,
à tous, bonjour à toutes.
On va essayer de combattre le bruit matin.
Oui, ça va faire du bruit, mais on espère qu'on va pouvoir l'amortir.
A tout de suite après la météo et les infos, et excellent week-end à vous tous.
Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr.